On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Carbone 14, certifié authentique. Mon vin mesure cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie est au centre et des territoires libérés s'inventent. Au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main, claustro clandestin, les cleps au train. J'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Bonsoir, c'est l'émission Angle Mort et vous êtes donc toujours à l'écoute de Radio Canu. Ce soir, on est 3-4 dans la pièce je vais vous proposer tout de suite de présenter l'émission parce que ça va être toi Eric et toi Arthur qui allez présenter des textes. C'est ça?
C'est ça, oui. Bonsoir, alors moi je vais parler je vais lire un texte qui a été écrit par Cédric Lomba, qui est sociologue. Un texte qui parle de, enfin qui revient sur le suicide d'un ouvrier qui s'appelle lui-même Alain Vigneron, un ouvrier de ArcelorMittal de Liège en Belgique qui s'est suicidé le 12 octobre 2013. Et donc ce texte s'appelle Un homme est mort, une classe joue sa survie et il est paru sur le site Contretemps il y a peu, le 29 octobre. Voilà, donc je vais parler de ça.
Et moi, je vais essayer de faire la première d'une série de chroniques que donc je vais essayer de faire à propos des usines autogérées ou qu'est-ce qui se passe quand le patron s'en va d'une entreprise.
C'est un peu une chronique auto.
Ouais, c'est un peu une chronique auto, mais bon, on va.
Oula, il y a de la concurrence.
On va autogérer ça, je pense qu'on va y arriver.
J'ai eu peur que tu dises que c'était un peu chiant mes chroniques, alors du coup, tu m'as fait quelque chose d'un peu plus intéressant.
Okay.
Il l'a pas dit, très bien, bravo. Alors on commence par un premier morceau, c'est ça?
C'est ça.
Et donc le premier morceau que j'ai dû mettre ici, c'est Minor Threat. Et c'est un titre qui porte le même nom d'ailleurs. C'est parti.
Yeah. a promise.
Alors, pardon pour le petit couac, c'est de retour l'émission Angle Mort. Et donc, on va commencer avec toi, Eric, c'est ça ?
Exactement, donc avec ce texte « Un homme est mort, une classe joue sa survie » de Cédric Lomba, qui est sociologue, qui travaille sur les mondes ouvriers et qui a notamment coordonné avec Julien Michy un numéro de la revue Actes de la recherche en sciences sociales qui s'intitulait « Usine, ouvriers militants intellectuels ». Et dans cet article, il revient sur le suicide d'Alain Vigneron, ouvrier dans un laminoir des usines ArcelorMittal de Liège. Et donc je vais me contenter de le lire. Un ouvrier est mort. Alain Vigneron, ouvrier dans un laminoir des usines ArcelorMittal de Liège en Belgique, s'est suicidé le 12 octobre 2013. Ce n'est pas le premier, puisqu'il avait lui-même découvert il y a quelques mois le corps d'un autre ouvrier pendu dans sa cabine de pilotage. C'est tragique. Mais cette fois, l'affaire fait grand bruit, en Belgique et au-delà. Parce que Alain Vigneron n'a pas laissé place au doute. Il laisse derrière lui une lettre qu'il avait remise à son délégué syndical FGTB lors d'une première tentative de suicide quelques semaines auparavant. Si les suicides sur le lieu de travail sont souvent entourés d'un flou sur leurs motifs privés ou professionnels, Alain Vigneron désigne très clairement un coupable. Monsieur Mittal, il m'a tout pris, mon emploi, ma famille. Combien de familles va-t-il encore détruire ? Moi, je n'en peux plus de ce milliardaire. À plusieurs reprises, il dénonce l'attitude de la direction d'ArcelorMittal, ici personnalisée par son PDG. Ce chef d'entreprise multinationale, comptant parmi les plus grandes fortunes du monde, est installé à Londres et n'a visité les usines liégeoises qu'une seule fois. Contrairement à d'autres drames de ce type ces dernières années, les causes de ce geste ne sont pas à chercher du côté de l'intensification du travail ou de la répression syndicale. La lettre dénonce clairement la fermeture définitive de son usine et plus largement celle de la majorité des usines sidérurgiques liégeoises, entérinées il y a quelques semaines malgré un long combat pour leur maintien. Cette annonce s'inscrit dans un processus lent et continu de restructuration et des multiples réorganisations du travail associées à des diminutions d'effectifs depuis la fin des années 1970. Si la menace de la fermeture plane sur le laminoir depuis les années 1990, la direction d'Arcelor l'annonce officiellement en 2003, planifiée pour 2009. Mais la direction de Mittal revient sur cette décision en 2007, car le cours de l'acier est reparti à la hausse. Le laminoir est toutefois mis à l'arrêt temporairement pendant la crise de l'acier en 2009, avec reclassement des travailleurs, pour redémarrer quelques mois plus tard. Il est à nouveau mis à l'arrêt momentanément en 2011, puis définitivement en 2013. Derrière ces décisions contradictoires et abruptes, le court-termisme financier est à la manœuvre. Pour prendre la mesure des restructurations, il faut avoir à l'esprit que la sidérurgie liégeoise regroupait plus de 25 000 travailleurs dans les années 1970, 6 000 à la fin des années 1990, et en conserverait moins de 1 000. Donc je poursuis la lecture de ce texte de Cédric Lomba, Un homme est mort, une classe joue sa survie. Il m'a semblé important d'alimenter la réflexion sur les effets sociaux de ces fermetures en m'appuyant sur les enquêtes que j'ai menées entre 1995 et 2011 auprès des travailleurs de ces usines dans le cadre de recherches sur la situation ouvrière en contexte de restructuration continue. Ce sont aussi des usines où ont travaillé des membres de ma famille proche. Il ne s'agit pas pour moi de désigner les coupables, ni d'imposer une lecture à cet acte, mais de pointer les effets structurels de ces fermetures d'usines qui retiennent l'attention des médias lors des annonces ou des actions coup de poing, mais qui semblent lassés à mesure que les combats s'éternisent ou se répètent. Les enjeux sont pourtant de taille. C'est vrai sur le plan productif, comme en témoignent les débats sur la désindustrialisation des pays d'Europe de l'Ouest. C'est aussi le cas pour l'emploi, quand les inquiétudes sur le devenir de régions entières se manifestent, comme dans le bassin de Liège, où le taux de chômage dépasse 20%. Mais on néglige souvent les transformations de la structure de la classe ouvrière que les restructurations génèrent. Le parcours d'Alain Vigneron exprime bien les promotions sociales que ce type de grande industrie a permis. Entré dans le monde du travail à 14 ans, notamment chez un sous-traitant de la sidérurgie, il rejoint Cockerill Sambre, passé l'âge de 30 ans. Il y fait une carrière ascendante en passant par tous les postes de contrôle automatique des engins avant de devenir brigadier, équivalent chef d'équipe, le rang le plus élevé de la hiérarchie ouvrière. De loin, on ne mesure pas le déplacement social opéré, on ne voit pas les compétences qu'exige une telle carrière. La sidérurgie apparaît à tort comme une industrie désuète, mais elle est le siège d'une très grande technicité, plus grande que la plupart des industries dites de pointe.
Les postes que cet ouvrier a successivement occupés au laminoir demandent le contrôle de très nombreux réglages automatiques, une connaissance fine de la gamme des tôles réalisées et un savoir-faire délicat dans l'ajustement au collectif de travail. Ses collègues attestent de ses savoir-faire et de l'implication de cet homme de métier dans son activité. Ou comme le dit sa fille lors de ses funérailles, « Tu avais de l'or dans les mains et l'amour du travail bien fait. Pour toi, le travail était si important. » Cette carrière demande des efforts très importants, parfois au détriment de la vie en dehors de l'usine, notamment pour suivre les formations de jour comme en cours du soir, en soudure dans ce cas. Cela répond également à un message porté par la direction de l'entreprise qui exigeait un investissement très important de la main-d'œuvre, présenté comme un capital humain entre guillemets, en période de croissance de la demande. Pour ceux qui s'étaient engagés pour faire tourner les usines et qui sont réduits aujourd'hui à un coût économique, la volte-face de la direction est radicale et très violente. Leur désarroi est d'autant plus grand qu'ils ont souvent cru au message des pouvoirs publics wallons, dirigé par une coalition entre social-démocrates et centristes, qui laissent entendre, comme pour Florange, au portage public des structures industrielles, d'autant que les expertises qu'ils avaient commandées à des consultants concluaient à la possibilité économique du maintien de l'activité sidérurgique dans la région. Ce qui est remis en cause avec ces fermetures, ce ne sont pas seulement des emplois, c'est aussi un engagement et une intelligence de travail acquise après l'école qui rapproche l'activité des ouvriers de celle des métiers de classe moyenne, les techniciens, voire de classe supérieure, les ingénieurs. En proposant bien souvent de reclasser ces ouvriers dans des secteurs peu qualifiés et précaires, comme la manutention, puisque c'est souvent ce que les cellules de reclassement ou les agences d'intérim leur proposent, on ne fait pas que déplacer des travailleurs. On transforme radicalement le groupe en le réduisant à sa force physique de travail. On participe à accentuer les rapports de domination dans la société et à dénier la capacité à des groupes dominés de sortir du rôle de l'exécutant. Donc toujours ce texte de Cédric Lomba, sociologue, « Un homme est mort, une classe joue sa survie ». Sur un autre plan, mais intrinsèquement lié, c'est aussi une forme d'engagement militant qui est en jeu. Alain Vigneron comptait parmi les syndiqués combatifs de ceux qui défendent leur emploi et leur travail, qui participent aux actions, qui tentent de mobiliser, de rendre visible leur combat. Il était particulièrement proche de son délégué d'usine, Fred, remarquable par la lutte difficile qu'il organise et par sa proximité avec les travailleurs, ce qui avait permis de retarder l'échéance fatale. Les derniers mots de sa lettre sont d'ailleurs adressés à ses militants. « Merci à tous les battants », conclut-il. Il faut voir ce que la lutte fait endurer pour comprendre la force de l'engagement dans l'incertitude. Elle consolide un collectif militant, mais éloigne également certains collègues moins investis, voire une partie des réseaux amicaux ou familiaux essentiels dans la sociabilité populaire. Elle tourne parfois au drame, comme pour ce jeune intérimaire de la sidérurgie liégeoise, John David, qui à 25 ans a perdu un œil dans une manifestation à Strasbourg en février 2013, touché par un tir de flashball des forces de l'ordre, alors qu'ils étaient venus manifester aux côtés des sidérurgistes français de Florange. Ce syndicalisme liégeois est réputé pour sa combativité, mais il fait aussi l'objet de condamnations morales. La direction du laminoir a ainsi parfois relié la mauvaise image sociale et les grèves passées, comme la bataille pour l'intégration des intérimaires en 2001, aux annonces de fermeture par la direction internationale de Mittal, qui n'a de cesse que de mettre en concurrence les usines entre elles. Fort d'un syndicalisme bien implanté, plus de 95% d'adhérents dans l'usine, ces ouvriers revendiquent des droits dans l'usine, notamment des salaires élevés et la protection des travailleurs précaires. Ce faisant, leurs salaires sont proches de ceux des classes moyennes. « Vous savez, écrit Alain Vigneron, je me bats depuis 31 ans pour avoir un petit quelque chose. » Et si leur style de vie reste différent, il n'empêche qu'ils partagent avec les classes moyennes des espaces résidentiels, sans être condamnés au quartier de relégation ou des loisirs, sorties au restaurant pour certains, vacances à l'étranger ou encore goût des belles voitures pour d'autres. Autant d'activités remises en question par les périodes répétées de chômage partiel et maintenant par la perte d'un emploi bien rémunéré. C'est peut-être cela qui dérange le plus au final les classes moyennes et supérieures, voir des classes populaires dépasser les bornes de leur enfermement physique et social et outrepasser les frontières de classe. Ces ouvriers militants continuent à prendre la parole et à revendiquer un avenir meilleur pour les leurs et au-delà. Ils participent au débat public pour défendre des modèles de redistribution, par exemple en conservant l'indexation des salaires sur le coût de la vie. Pèsent sur les pouvoirs publics locaux, voire élaborent une contre-expertise autonome pour proposer des modèles alternatifs de développement économique. Mais en réponse, ils trouvent souvent des politiques publiques de « redéploiement régional » entre guillemets, qui ne suffisent pas à absorber tous les licenciements ou aboutissent à la dispersion des collectifs d'engagement dans des multiples entreprises de plus petite taille. Cela participe à leur retrait de la discussion publique et à la marginalisation des forces politiques et syndicales censées les représenter. C'est cette figure ouvrière, forte de son savoir-faire et de ses engagements, qui est fragilisée dans les restructurations industrielles. En disant cela, il ne s'agit pas de verser dans une nostalgie ouvriériste. Les salaires élevés avaient un prix, notamment des horaires en 3-8 avec les problèmes de santé qui y sont associés, des accidents du travail en grand nombre et des morts presque chaque année, surtout chez les sous-traitants et les intérimaires. Les retombées environnementales des usines sidérurgiques, mal connues, ne sont pas à minorer, et surtout ces communautés ouvrières stabilisées n'incluaient au travail que des hommes. Il ne s'agit pas de laisser ces problèmes en chemin, mais, au lieu d'homogénéiser les situations vers le bas, comme cela semble se profiler avec les fermetures des sites et les projets de gentrification de l'espace local, de considérer que des collectifs ouvriers engagés et stabilisés jouent un rôle central dans la lutte pour l'émancipation collective et la remise en cause des rapports de domination. Les mobilisations des sans, sans travail, sans logement, sans papier, sans terre, etc. De celles et ceux qui cumulent les positions subalternes, portent des revendications spécifiques et alimentent les réflexions sur la remise en cause radicale de l'ordre social. Il ne faudrait pas pour autant délaisser les travailleurs qui étaient parvenus à acquérir des petits quelque chose, à construire des cultures et des savoirs autonomes et distincts de ceux portés par les élites politiques, économiques et intellectuelles. Les soutenir, sans parler à leur place, passe notamment par la défense d'une industrialisation sur place contre la logique des flux financiers sans attache, par la lutte contre la mise en concurrence systématique des lieux de production et par la valorisation des savoirs techniques contre l'hégémonie des savoirs gestionnaires ou scolastiques. L'acte tragique d'Alain Vigneron pourrait laisser croire à une forme d'impuissance face à la machinerie néolibérale. Mais ses combats et son message fort de dénonciation invitent plutôt à prendre à bras le corps la question de la place que l'on veut donner aujourd'hui aux travailleurs et aux classes populaires dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui.
And then become a victim, because for every man rocks, you see, them going to pay us God.
Voilà, donc c'était un texte, donc toujours sur Radio Canu Angle Mort, un texte de Cédric Lomba, sociologue, qui s'intitulait « Un homme est mort, une classe joue sa survie », hommage à Alain Vigneron, on pourrait dire, et en même temps analyse donc de ce suicide de cet ouvrier liégeois, en termes de la situation des classes sociales et de l'industrie à Liège, de la sidérurgie. On va poursuivre sur Angle Mort après une petite pause, le temps de caler la suite, et puis on vous retrouve.
Et là, je vous propose de continuer un peu dans le même genre de musique, Straight Edge, avec Fugazi cette fois, et Smallpox Champion.
Point d'impact des colères, un contre-courant vert, et contre toutes les muselières,
à la périphérie des champs,
au cœur des poudrières. Si je sors le soir et promène mon ulcère en quête d'un peu d'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir, si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende contre d'identité bonsoir. Non, je ne vais nulle part, et puis je n'attends personne. Alors à quoi on me compare, et de quoi on me soupçonne? Quelle est l'utilité que vos unités me talonnent quand je ne fais que méditer, adossé à une colonne?
Vous êtes toujours à l'écoute d'Angle Mort sur Radio Canu. Et après Eric, et bien c'est Arthur qui va nous parler d'autonomie. C'est ça?
À peu près.
Chronique auto.
Non. Je n'empiéterai pas sur tes plates blondes, Fabien, ne t'inquiète pas. Du coup, je voudrais essayer de faire une série de chroniques, comme je disais, sur les usines autogérées. C'est-à-dire comment on peut s'organiser, en fait, pour produire des trucs sans patron, en fait. Quand les chefs s'en vont, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, je vais commencer avec un exemple que tout le monde connaît assez bien, généralement, qui est l'usine LIP, qui est une usine horlogère de Besançon, qui, dans les années 70, justement, très exactement en mai 73, il y a eu l'entreprise a voulu virer une grande partie du personnel, ce qui fait que ça a forcément créé une grève. Ils ont pris le stock des montres, et du coup, il y a eu une intervention des forces de l'ordre, et du coup, toute la région s'est mise en grève, il y a eu une grande manif à Besançon, et ils ont en fait remis en route la production. Les patrons et tout s'étaient barrés, et eux, ils ont remis en route la production, en fait, contrôlée par les travailleurs eux-mêmes, en fait, sans chef. Mais bon, du coup, ça a tenu un an, et au bout d'un an, l'usine a été reprise par un proche de Michel Rocard. Ce proche de Michel Rocard, j'ai oublié le nom, il a un nom un peu compliqué. Ça a tenu jusqu'en 76, où ça a refait faillite. Et il y a eu de nouveau, en fait, la usine a fait faillite, a déposé bilan. Et ils ont de nouveau mis en place une production, en fait, autogérée. C'est-à-dire sans chef, sans actionnaire. Du coup, en fait, c'est pas vraiment de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais vous présenter un documentaire à propos de ça. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire le lien avec l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines avec Camille, qui nous a parlé de l'antifascisme et du féminisme. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un film documentaire qui va étudier, en fait, la place des femmes, non pas dans l'antifascisme, mais dans le mouvement LIP. Et du coup, en fait, on va retrouver un peu le même contexte qu'avec l'antifascisme. En fait, dans un mouvement d'extrême, on peut appeler d'extrême gauche, où en fait on veut déconstruire les rapports de classe, on veut déconstruire remettre en cause le capitalisme, un peu remettre en cause toutes les dominations. On peut se demander s'il y a une remise en cause de la domination genrée. Et du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être on peut écouter une super musique de...
Alors, j'ai pas compris s'il fallait que je passe la musique ou s'il fallait que je passe le témoignage, c'est ça?
Peut-être la musique.
La musique. Et c'est comme tu veux.
Je sais pas.
J'ai eu d'autres instructions, alors bien, en fait. Mais je passe donc la musique.
T'es en train de dire que ton chef...
Et donc, j'ai un chef et voilà, je suis obligé de suivre un petit peu. Tu comprends, il n'y a pas longtemps que t'es là, hein, Arthur. Alors, bon. C'est d'abord Eric. Hein.
Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui est censé être qu'un exécutant.
Moi, oui, mais à présenter cette chanson.
Oui, alors c'est Randy avec une chanson Proletarian Up, donc sur les prolétaires. Voilà.
C'est parti.
Struggle, baby, it's just begun. So just won't stop. No, it just won't stop. Oh, it just won't stop. Come on, boys, let's go.
Toujours à l'écoute d'Angle Mort et Radio Canu, 102.2, c'est ça, 102.2, Radio Canu.
Ou sur Internet.
Ou sur Internet, quand ça marche.
Alors sur Internet, comment ça marche, il faut aller sur le site de Radio Canu, et puis il y a un onglet ou un endroit, écouter en direct Radio Canu, et puis là on écoute en direct Radio Canu.
D'accord.
Et même si on aime vraiment bien l'émission, on peut même écouter les podcasts ensuite après pour se l'écouter chez soi plusieurs fois si vraiment...
C'est des fois nécessaire. Hein. Mm. On comprend pas bien des fois. Et... c'est vrai que... Du coup, ça fait une très bonne transition pour ce que tu as à nous dire.
Voilà. Donc... du coup, je continue sur mes usines autogérées. Et du coup, je rentre justement, je voulais vous parler d'un documentaire, comme je disais, qui a été fait sur les usines libres, donc une usine autogérée dans les années 70 à Besançon. Il y a donc un film qui a été fait par une personne qui s'appelle Carole Roussopoulos, qui a fait une série en fait, d'interviews d'ouvrières et d'employés de LIP. On a donc Monique Piton, qui en 73 est ouvrière et en 76 assistante de publicité, et Christiane, qui est ouvrière spécialisée. Donc en fait, elles vont du coup raconter leur lutte, leur combat, comment s'est passée justement toute cette période d'autogestion à LIP. Et elles font du coup, dans la première partie, un petit peu une grosse critique en fait, il y a deux documentaires, un en 73 et un en 76. Et elles font une grosse critique dans le premier de la télévision, en fait, du traitement des médias de la situation. Et puis, du système, on va dire, capitalisme en général. Et puis surtout, en fait, elles vont parler de la place des femmes dans ces combats. Comment elles ont été plus ou moins réduites à un rôle assez subalterne. Elles vont montrer aussi, en fait, à travers ça, les problèmes qu'il peut y avoir dans la démocratie interne à l'intérieur du syndicat, en fait, qui va savoir bien parler, qui va avoir un meilleur charisme, et qui va être, je trouve que c'est le président du syndicat, et qui, du coup, en fait, va se retrouver, alors qu'on est dans un système de démocratie directe, à être un petit peu le chef. Voire carrément le chef, ça dépend des moments. Et elles vont en fait essayer de montrer la difficulté, ce que c'est que d'être une femme dans ce mouvement. Et il y a notamment Monique qui, du coup, pour montrer en fait, pour essayer de choquer les esprits, en fait, elle va montrer dans l'extrait qu'on va passer ensuite les similitudes qu'il y a entre racisme et sexisme. Elle va expliquer son histoire en fait en remplaçant dans son discours homme par blanc et femme par arabe. Et donc, peut-être qu'on peut en profiter pour écouter ce petit extrait, si Fabien est prêt à le mettre. Cet extrait, il est prêt.
Oui, heureusement que tu l'as dit, parce que...
Et du coup, il l'avait décalé.
Un petit peu oublié. Donc là, c'est calé, c'est ça, il y a 8 minutes.
Voilà, c'est ça, il y a 8 minutes. Et du coup, on va écouter Monique et Christiane.
C'est parti.
Les femmes, c'est justement, on n'en parle pas assez. On dit toujours les travailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs, les travailleuses. Parce que chez LIP, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part. Hein. Bon, alors, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. On a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on peut le nommer, effectivement, qui est un homme. Mais les femmes participent dans toutes les commissions. Les femmes font un très gros travail. Des meetings, les femmes prennent la parole, les femmes organisent, les femmes, je sais pas, il y a des lettres, des tracts à taper, c'est souvent les femmes, donc elles participent, et non pas en obéissant en mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire. C'est essentiel.
Les femmes disent qu'elles ont peur de s'exprimer. Et le comité d'action les a aidées quand même en ce sens à s'affirmer. Elles vous disaient carrément, et les jeunes travailleurs également, il y a une structure dans le syndicat, il y a une certaine hiérarchie, ça nous fait peur. et le comité d'action n'a pas de structure, il y a une certaine liberté, on ose s'exprimer, on n'est pas jugé, on peut dire une bêtise, en fait c'est repris par quelqu'un d'autre, reformulé. Enfin, vous voyez, je crois que ça aide les gens à se désaliéner et à se reconnaître, à être reconnus. Et je crois quand même que, oui, c'est vrai que les syndicats ont du mal de piger.
Je vais te raconter un petit peu ce qui se passe chez Elip à propos des femmes. Hein. Mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirai des arabes, ça veut dire des femmes. Alors donc, chez Elip, il y a la moitié de blanc et la moitié d'arabe. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grand chef arabe. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les Arabes, ben on pense. Moi, je sais, puisque je suis un Arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors, blanc mène la lutte. Et nous, les Arabes, on suit. Remarque, il y a aussi... À part les Arabes, il y a des blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits blancs. Ils n'ont pas beaucoup la parole. Mais quand même, quand ils disent quelque chose, c'est moins mal vu que quand c'est un Arabe. Et ces petits blancs, dans certains cas, ils sont quand même du côté des grands chefs blancs. Par exemple, tiens, en ce qui concerne les problèmes d'Arabes. C'est vrai, les Arabes, on a des problèmes d'Arabes. Puis les blancs, ils peuvent pas comprendre, tu vois, ça les dérange. Par exemple, on n'a pas les mêmes maladies qu'eux. Ces Arabes, ça a un ventre compliqué. Les grands chefs blancs, ou tous les blancs d'ailleurs, quand ils ont des maladies, c'est des maladies nobles, c'est des choses vraies, des problèmes sérieux. C'est pas comme ces Arabes qui se plaignent pour tout et pour rien, et qui dérangent. Alors... Évidemment, ce qui concerne par exemple la lutte, on peut dire que tout le monde sera défendu, même les Arabes. Il y a une bonne raison pour ça, je vais te dire pourquoi, c'est que cette usine ne peut pas tourner sans les Arabes. Alors, pour l'emploi, on sera tous défendus avec impartialité. Évidemment, les Blancs, leur rêve serait d'être une usine de Blancs. Tout serait tellement simplifié, c'est fou. Puis il y a quelque temps... Les Arabes, on était un peu récalcitrants pour les tâches. Alors, pour tous les petits travaux, tu vois. Et les grands chefs blancs ont dit, ben, on va se mettre nous aussi à faire ces tâches humbles, tout ça, on va montrer l'exemple. Évidemment, c'est dommage de gâcher le temps de ces grands penseurs à faire des travaux aussi simples. Aussi discret, enfin j'aurais pas dû dire aussi discret parce qu'ils sont pas tellement discrets quand ils font ça, enfin certains. Par exemple, quand il y a un grand chef blanc à la cuisine, bah on sait, hein, on l'entend, il remue, il récrit tout le monde, il faut que tout le monde soit autour de lui, enfin tout un tas d'arabes, il y a une dizaine d'arabes autour de lui pour éplucher les oignons ou passer les plats. Et les arabes qui sont là, on n'en fait pas de cas, on sait pas leur nom, c'est des arabes, c'est normal, ils sont 10, ils sont 20, on les compte plus, ils ont pas de nom. On les remarque pas comme un grand chef blanc qui a daigné venir à la cuisine. De toute façon, dans la lutte, les arabes qui n'ont pas la parole, on leur recommande quand même de se rendre utiles. Ils doivent même se rendre utiles. Comme je le dis, passer les plats, faire les nettoyages, monter la garde, taper à la machine ce que les grands chefs blancs ont pensé et élaboré. Mais pour la stratégie, on ne leur demande jamais leur avis. De toute façon, un arabe, ça doit rester discret. Que ce soit dans son travail ou pour le tout, un arabe qui va changer le papier des chiottes ou tout ça, ça fait pas de bruit. On trouve ça normal, c'est un boulot d'arabe. On va quand même pas s'épater parce qu'un arabe a fait du nettoyage. C'est fait pour ça, un arabe. Et puis, il y a aussi des arabes qui ont en quelque sorte renié leurs frères de race, c'est-à-dire qu'ils n'admettent pas tellement qu'il y a des problèmes d'arabes. Ils n'aiment pas entendre parler de ça parce qu'ils savent que ça dérange les blancs. Alors, pour pouvoir être bien avec les blancs, ils ne parlent pas de ça. Et ils vivent dans l'ombre des blancs. Et ils se croient un peu blanchis à cause de ça, tu vois. Mais ils se trompent parce que quand il y a des grandes décisions à prendre ou des actions secrètes, eh bien, les blancs ne mettent pas les arabes dans le coup, ne les mettent pas dans la confidence, même s'ils sont toujours avec eux. Évidemment, on ne peut pas faire confiance à un arabe. Et puis, il y a quelque temps, par exemple, je vais te dire encore un autre exemple. Un jour, au collectif, Christiane et moi, on a un peu oublié qu'on était arabes. On nous l'a très vite rappelé. Voilà, il y avait un grand permanent syndical qui vient et qui arrive, qui dit « Je voudrais quelques lips pour m'accompagner à la police, ça m'embête d'aller tout seul. » On était déjà très contentes parce qu'il n'avait pas dit « quelques gars », comme il dit d'habitude. Alors, quelques lips, Christiane et moi, on a levé le doigt. On a dit « on veut bien aller ». Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là? Comment veux-tu qu'un grand chef blanc accepte d'être soutenu à la police par des arabes? C'est invraisemblable, impensable. Les arabes, c'est de la merde. Alors, évidemment, il nous a même pas regardé. Il n'y a aucun autre grand chef blanc là qui a eu un regard pour nous. Et ils se sont débrouillés entre eux pour trouver assez de monde pour aller à la police. Puis Christiane et moi, ben, on s'est écrasés. On aurait dû se rappeler qu'on est arabe, qu'on n'est rien. Qu'on n'est rien.
Et donc... Pardon, excusez-moi, c'est le retour. Vas-y Arthur.
Et donc voilà, c'était un extrait de ce documentaire qu'on peut retrouver super facilement sur internet. Il suffit de taper Monique et Christiane, LIP, L-I-P, dans un moteur de recherche.
Et... Ouais, et moi du coup je voulais rebondir un peu, enfin juste, ça me faisait penser à, il y a peu à Paris... tout ça une soirée du coup une soirée sur ouvriers intellectuels qui était organisée par Julien Michy, Cédric Lomba, etc., dont j'ai lu tout à l'heure le texte, Agone, les éditions du Seuil, tout ça, et dans cette soirée qui était un peu consacrée en gros manière de réfléchir à comment des artistes peuvent apporter un peu une pierre, on va dire, à l'édifice de la reconstruction d'une représentation ouvrière dans l'espace social, à un moment où les ouvriers sont de plus en plus invisibles, où on a l'impression qu'il n'y a plus d'ouvriers, alors que si, il y a des ouvriers. Et donc, parmi ces intervenants, il y avait un metteur en scène qui s'appelait Bruno Lajar, un metteur en scène de théâtre, qui a fait une pièce qui s'appelle 501 Blues. Et qui du coup justement rend visible non seulement les ouvriers mais aussi justement les femmes ouvrières, et c'est pour ça que ça m'y a fait penser, parce que c'est une pièce qui a été faite après la fermeture de l'usine Lévis en 1999 dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui était une usine où il y avait très majoritairement des femmes, et donc il a monté une pièce avec les ouvrières licenciées, une partie des ouvrières licenciées, et comme actrice des ouvrières licenciées. Donc ceux que ça intéresse, ce genre de question de rendre visible la classe ouvrière, mais aussi parmi la classe ouvrière rendre visible les femmes ouvrières et leur situation, et notamment ce qu'il explique, enfin son discours est assez intéressant parce qu'il explique que pour les femmes, ce travail c'était vraiment important parce que elles avaient acquis leur indépendance économique là-dedans. Donc il explique que souvent c'était des femmes qui avaient dû se marier un peu contraintes par qui n'avaient pas forcément pu choisir, et du coup le fait d'avoir vraiment ce travail leur permettait d'avoir une indépendance. Voilà, donc c'est un discours assez intéressant, et voilà, donc cette pièce, je suis pas sûr qu'on peut enfin elle a tourné longtemps parce qu'elle est de 1999, je crois qu'elle a il y a eu 75 représentations dans 53 villes, et je crois que ça a duré assez longtemps. Mais pour la retrouver, je pense qu'il faudrait peut-être... Je crois que, je ne sais pas si c'est pas un livre, et même peut-être un film qui était prévu. Voilà. Donc 501 Blues, ça peut être intéressant.
Super, et avant de passer à la suite, on peut écouter une super musique.
Oui, alors, on va... ça va être un vinyle.
Ouais.
T'as qu'à voir.
Et je sais pas ce que c'est.
Ah, alors c'est P4 à l'attaque, groupe anarcho-punk français, malheureusement dissous. super groupe anarcho-punk qui date des années 2000, quelque chose comme ça. Et donc la chanson, alors c'était sur le LP. Non, LP c'est les gros vinyles, EP c'est les petits, donc c'est un EP qui s'appelait On va tous mourir, je crois, et la chanson s'appelle Le Système.
Alors je vais essayer, je promets rien. Eh bien, toujours à l'écoute de Radio Canu, toujours à l'écoute d'Angle Mort, et c'est toujours Arthur qui nous parle.
Et oui, c'est moi qui vous parle, et en plus de vous parler, je vais organiser votre mois, en fait, parce que je vais vous parler d'une super initiative qui, en fait, la semaine dernière, Eric a fait une brillante présentation du salon d'édition... Attends, c'est le chef, faut pas déconner, hein. Du salon des éditions libertaires, et du coup, en fait, autour du salon des éditions libertaires, les organisations qui font partie du salon des éditions libertaires, ça fait beaucoup de fois que je dis libertaire,
Et c'est pas fini d'ailleurs,
ont décidé de faire en fait une
de
initiative,
manière libertaire,
voilà, autogérée, voilà. Et tout ça, de monter en fait un programme sur tout le mois qui s'appelle Novembre, on s'installe partout. Et donc en fait c'est une série de conférences, il y a du film, du théâtre, il y a même du cirque, des spectacles, des rencontres, enfin bon, des concerts, il y a tout ça pendant tout ce mois-ci. Et donc je vais faire une présentation, en fait j'ai de façon absolument pas libertaire sélectionné drastiquement des trucs que je trouve intéressants. Et du coup, si vous voulez la programmation complète, il faut aller sur Rébellion, ou je pense sur le site du Salon des éditions libertaires, ou dans un moteur de recherche. Du coup, je vais vous présenter un petit peu ce que moi, je pense qui est super d'aller ce mois-ci, et après, si d'autres...
C'est super prétentieux,
ouais,
ça.
Ouais, c'est assez prétentieux, ouais. Du coup, à partir de déjà samedi prochain, il y a un débat organisé par la coordination des groupes anarchistes. Du coup, avec notamment... Camille, qui était venue il y a deux semaines nous présenter ses recherches. Quelle réponse libertaire, ça fait cinquième fois libertaire, au fascisme à 15h. Et ils vont présenter aussi une campagne libertaire contre le fascisme qu'ils ont montée avec la Fédération anarchiste, Alternative Libertaire et tout un tas de personnes. Donc ce sera à 15h à la Plume Noire. On a aussi un spectacle de théâtre du mardi 12 au dimanche 17 novembre à l'espace 44. C'est donc
est-ce que c'est du théâtre libertaire ?
Eh ben ouais, figure-toi, parce que c'est Albert Camus, auteur libertaire reconnu, La Chute, qui voilà la chute.
La chute.
Alors, si le 14 novembre vous avez envie d'aller juste à côté à la CNT, après être allé voir la chute d'Albert Camus, il y aura organisé par la CNT, la Confédération nationale du travail, une présentation d'un livre d'un militant de la CNT qui s'appelle Les Bourses du travail à 20h. Du coup, il va nous raconter. Il va nous raconter comment se passaient les bourses du travail à Lyon.
Est-ce que c'est un livre libertaire ?
C'est un livre libre. Alors ça c'est laissé à l'appréciation de chacun. A priori, oui. On va avoir aussi le lendemain soir, si on en a marre d'aller voir l'Albert Camus, des chansons libertaires par François Mallet à 20h. À un endroit qui s'appelle les Galets Bleus de la Nuit, 18 rue Payron. Il faut s'inscrire par téléphone avant. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors samedi 11 novembre, Eric, tu sais ce que tu vas faire déjà? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire?
Non.
Déjà, tu vas aller à 17h encore une fois à la CGA.
Non, déjà moi le 11 novembre, je vais
il va au Sonic, il va écouter.
Non, mais c'est le 16 novembre, c'est le 16 novembre, Eric, excuse-moi.
Non. Parce que le 16 novembre, moi je suis patriote, donc
t'es patriote. Ah ouais,
le 11
pardon,
novembre,
ouais,
non, bah, je suis au monument aux morts et je
voilà. Bah du coup ce coup-ci, le 16 novembre, comme tu es libre, tu pourras aller à 17h à la CGA.
Ah bah
écouter une super conférence autour d'un livre qui s'appelle Stop Masculinisme, qui s'appelle Connaître les stratégies des masculinistes pour mieux les combattre. Et ensuite, le soir, une fois que tu auras bien discuté.
Et c'est qui ça?
Ça?
Ouais.
C'est un collectif grenoblois.
D'accord. Ok, ouais.
Malheureusement, il n'y a pas de chef. Je pense que c'est un collectif un peu libertaire. Et donc, le soir, ensuite, Eric, comme je sais que tu adores ça, tu vas pouvoir aller au Troxon. Tu sais où c'est? C'est dans la montée de la Grande Côte. C'est à 20h30, c'est gratuit. C'est un concert de punk metal hardcore.
Wow.
Organisé par la Dirty Sharon Conspiracy. Avec 400 The Cat et The Dow. Deux groupes de grind hardcore et de black hardcore que je ne connais pas, qui viennent du sud de la France.
Que personne ne connaît, à mon avis.
Si, attends. C'est The Cat est le nouveau projet des Grind 2 de Morgue qui écume squat et milieu alternatif depuis plus d'une dizaine d'années. Tu connais?
Non.
Non, tant pis. C'est pas grave, mais il paraît que c'est bien.
Mais j'ai
du coup, après, si jamais t'as une autre idée le 16 ou 17 novembre, tu peux aller voir des chants populaires italiens avec l'association Passa Montagne, place Saint-Jean. Voilà, comme tu veux, tu choisis ou le concert de punk hardcore ou les chants populaires italiens. On peut avoir aussi le 18 novembre une formation aux résistances numériques. En fait, c'est encore l'association Passa Montagne qui va nous faire une formation. En fait, pour ils vont proposer tout un tas d'analyses critiques des réseaux sociaux et comment en fait résister aux réseaux sociaux.
Du coup, tout ça quoi.
Voilà, et une forme de contre-pouvoir, tout ça fait libertaire dans l'ensemble. Et donc le mardi 19 novembre, encore mieux, on va avoir en fait justement en fait le pendant de la chronique auto de Fabien et de ce que j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'il va y avoir à la CNT à 19h la présentation en fait de quatre structures coopératives autogérées qui du coup bah, les militants de la CNT vont nous expliquer un petit peu comment on peut s'organiser du coup sans chef.
Alors c'est laquelle?
J'ai entendu ton ricanement. Je ne dirai rien. Le 21 novembre, pour rien changer, on va avoir Alternative Libertaire qui va nous présenter en fait un collectif VISA qui s'appelle Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, qui en fait c'est différents militants de différents syndicats. Il y a la CGT, il y a Sud, il y a la FSU, qui en fait ont recensé, analysé tout en fait que comment le discours du FN et de l'extrême droite en fait va essayer de faire croire aux salariés, aux ouvriers, aux ouvrières, à tous les classes populaires que en fait l'extrême droite est avec eux, alors qu'en fait on sait bien que non. Et du coup en fait eux ils vont proposer en fait tout un tas d'arguments, de phrases choc, je sais pas, enfin en tout cas un moyen en fait de déconstruire et de décrypter le programme du FN pour en fait donner des arguments aux militants syndicaux sur leur lieu de travail. Et donc ce sera à la Maison de l'écologie à 20h30.
Et donc c'est quand ça, pardon?
Le 21 novembre.
D'accord.
Ça va bien, hein?
Ouais, non mais c'est...
Ça a l'air bien.
Ça a l'air bien.
Le 22 novembre, on a deux shows. Ah non, c'est pour faire, on peut faire à la suite. On peut aller à 17h, place Colbert. Il y a un cirque musical qui s'appelle Le Colis, qui est par la compagnie La Myrtille Sauvage. C'est en fait cette compagnie qui a eu l'idée de ce cirque au moment où les Roms se sont fait expulser de la Guillotière. Dans laquelle, et en fait, c'est au moment de ces expulsions en fait, que les gens de la Myrtille Sauvage ont essayé de les défendre un petit peu. Et donc, en fait, ce spectacle et cette situation en fait, les a poussés à essayer de créer cette pièce, ce spectacle qui parle du coup de la question de l'étranger, du racisme, de ce qu'on peut faire pour vivre ensemble. Et du coup, en fait, c'est plutôt inspiré du film muet, parce que du coup, il y a des jonglages, des acrobaties. Et du coup, en fait, ça permet de traiter de ce sujet de façon un peu moins pesante. Et donc, après être allé voir le spectacle de cirque, on peut aller de nouveau à la CGA voir la présentation d'un livre de la Fédération anarchiste de Rio de Janeiro au Brésil, qui s'appelle Anarchisme social et organisation, et qui du coup a été édité et enfin coédité par du coup la Fédération anarchiste de Rio et la CGA. Et donc du coup c'est à la Plume Noire à 19h. Et enfin, on peut aller voir pendant tout le non du 22 novembre au 6 décembre au j'ai encore du temps ou...
Vas-y. Oui.
Du 22 novembre au 6 décembre à la galerie Larage, c'est le collectif Foutoir qui a en fait revisité Guignol pour le remettre au goût du jour et pour essayer de dénoncer un petit peu comment Guignol a été récupéré le pauvre par différentes institutions plus ou moins peu recommandable, c'est-à-dire plutôt les militants d'extrême droite aujourd'hui à Lyon. Du coup, essayer de se réapproprier un peu ce personnage. Et donc, enfin, pour finir ce super mois libertaire, on peut aller le samedi 23, le dimanche 24, au 3e salon des éditions libertaires, à la maison d'association 28 rue d'Enfer Rochefort à Lyon 4e. Et donc, voilà, c'est super.
Et pendant qu'on y est dans les annonces, mais alors là je l'ai plus de tête parce qu'il y avait l'affiche, mais pour ceux qui sont intéressés par la critique des médias, il y aura ce mois-ci aussi trois projections. Donc ce jeudi-là, le film Fin de concession de Pierre Carl qui a un peu déconné récemment sur la question d'antifascisme, mais qui fait un bon film, critique des médias. Et donc c'est jeudi, alors par contre, je sais pas, c'est pas à la Doua ou
un truc comme ça. C'est à la
Doua, oui. Ouais, mmh. Voilà. Et après, il y aura un autre film, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est encore... Enfin, bon, les deux sont bien, mais Les Nouveaux Chiens de Garde est vraiment, vraiment bien. Par Gilles Balbastre et je sais plus s'il est tout seul ou s'il y en a d'autres. Et donc ça, j'ai plus les dates exactes en tête, mais ça va être aussi dans ce mois-là. À la Doua aussi, il va y avoir deux projections, pour le coup, des Nouveaux Chiens de Garde. Et voilà, donc je pense qu'on peut retrouver cette information en allant sur le site, le blog d'Acrimed Lyon, je pense, parce que j'ai vu qu'ils étaient parmi les organisateurs. Donc il y a Acrimed 69, voilà.
Eh bien, il est temps de laisser la place à la causerie, je crois. C'est ça?
Je crois, oui.
Ouais. Eh bien, bonsoir. bonsoir, et on va finir, avec un truc pas du tout libertaire. Oui. C'est Joy Division, et je crois que tu avais choisi Walking in Line.
Ouais, parce que bon, là, on a commencé à être un peu joyeux en parlant, alors qu'on avait commencé l'émission un peu. Mais bon, on s'est dit, on va bien replomber l'ambiance avant de laisser Et voilà, donc Joy Division, Walking in Line.
C'est parti.
Radio Canu.
Pardon.
Juste la semaine prochaine, Angle Mort revient avec. Donc, on accueille l'association Autodéfense et Autonomie. C'est Alexia et Natacha qui vont conduire un entretien avec plusieurs animatrices de ce collectif d'autodéfense féministe. Voilà. Donc, à la semaine prochaine.